Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 21. Je reçois Vincent, ingénieur de formation, qui est parti en voyage avec sa compagne assez rapidement après la fin de leurs études, jusqu'au Népal. Au retour en France, le voyage a continué et l'a amené à devenir paysan. Il travaille aujourd'hui avec sa compagne dans une ferme qui produit des plantes médicinales nommées Baume Chanty. Bonne écoute. Bonjour Vincent.
Bonjour Philippe.
Vincent, tu es ingénieur de formation. Après quelques années à travailler dans des grandes entreprises, tu es parti au Népal avec ta femme. À votre tour, vous avez décidé de changer de mode de vie et vous vous êtes intéressé au monde agricole. Aujourd'hui, vous avez une ferme en Bretagne où vous produisez notamment des plantes médicinales. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
Alors, mon parcours, je vais commencer où ? Donc effectivement, j'ai rencontré ma compagne pendant nos études à une école d'ingénieurs à Brest. Et dès ce moment-là, on avait bien envie de voyager. Et une fois notre diplôme obtenu, la question était un peu est-ce qu'on voyage tout de suite ou est-ce qu'on travaille. Et c'est vrai que si on partait voyager tout de suite, c'était un peu mettre notre diplôme à la poubelle, parce que quand on est débutant, et ben les recruteurs veulent de l'expérience. Et voilà, donc on avait conscience qu'il valait, si on voulait travailler, il valait mieux aller travailler tout de suite. Donc on a commencé par utiliser notre diplôme en quelque sorte pour travailler. Et en ayant bien en tête qu'on avait envie de voyager et que d'ici quelques années, on prendrait le temps de voyager. C'est ce qu'on a fait, donc on a trouvé du travail, chez Renault, via intermédiaire d'une boîte de prestations, et Marie, ma compagne, chez ST Microelectronics. Et pendant 2-3 ans, on travaillait dans ce milieu-là, avec un peu, on s'était mis une date butoir, en disant, telle année, on part, et on essayant de s'y tenir. Et donc, la date se rapprochait, et puis il a fallu se secouer un peu les puces et faire ses préparatifs de départ, et on est parti en voyage. Donc ça, c'était il y a 10 ans déjà. On a quitté nos emplois en juin 2009 pour partir pour un an de voyage. Le voyage qu'on avait décidé de faire, on était attiré par l'Asie, par le bouddhisme, toutes ces choses-là là, depuis longtemps. Donc l'Asie comme destination, c'est imposé à nous, et on a fait un voyage jusqu'au Népal, comme tu disais Jean-Philippe, mais par la route, c'est-à-dire qu'en train, bus, on a traversé l'Europe, Turquie, Iran, Pakistan, Inde et Népal sur une petite année, donc 5 mois pour atteindre l'Inde, en restant à chaque fois un mois et demi en Turquie, un mois en Iran, en prenant le temps. Et puis donc après, 4 mois à passer en Inde et 3 mois au Népal pour finir. Et retour en avion.
Et du coup, quel était un peu l'objet du voyage quand vous êtes lancé ? Il y avait un objectif en particulier, ou c'était vraiment partir à l'aventure et à la découverte du Népal ?
Quand on part pour un voyage comme ça, c'était il y a 10 ans, donc voilà, on avait 27 ans dans ces eaux-là. Bon, on voulait rencontrer des gens, hein, comme on utilise cette expression toute faite, c'était pas forcément les visites de lieux qui nous intéressaient, c'était découvrir le monde, les gens. Et j'ai le souvenir qu'au début, on avait préparé une sorte de questionnaire, des questions qu'on essayait de poser, un peu les mêmes à tout le monde. Moi, j'avais du mal à m'y tenir, mais Marie avait fait un blog de voyage qu'on a toujours, enfin qui est imprimé, donc qu'on consulte, c'est drôle. Voilà, c'était, on a voyagé en faisant du couchsurfing, surtout au début, quand c'était possible, là, en Europe, Turquie, Iran, donc en se faisant héberger par les habitants des différents pays. Donc, c'était vraiment l'idée d'aller à la rencontre des gens. Après, on a fini le voyage aussi par du bénévolat dans un petit village au Népal où on était prof d'anglais, petite école, un village reculé, il n'y avait pas d'électricité, il fallait marcher 2 heures à pied après le dernier arrêt de bus, là c'était complètement isolé. C'était super, super sympa. Voilà, il y avait cette, aussi cette curiosité pour le bouddhisme et la méditation. Donc, il y a eu cette découverte que quand on voyage dans ces pays-là, les gens ont bien compris que les Occidentaux sont à la recherche de ça. Et donc, il y a tout un tas d'offres un peu trop commerciales des fois sur des stages de méditation, yoga, etc. Mais il y a des choses aussi très intéressantes. Et au Népal, j'ai fait le stage Vipassana. C'est un stage de 10 jours assez connu qu'on peut faire dans le monde entier. Qu'on a refait en France d'ailleurs ensuite. Là, il y a un centre Vipassana en France. Donc voilà, c'était, on était assez ouverts lors de notre voyage sur ce qui allait nous arriver. On a découvert plein de choses, et puis en un an de voyage, on change beaucoup, on ralentit son rythme, on n'est pas du tout le même voyageur le premier mois que le dernier mois. À la fin, on passait un mois et demi à Katmandou, juste à rester, à plus trop bouger, alors qu'au début, tous les 3-4 jours, on changeait. Il y avait aussi que le début, on était en route pour l'Inde et le Népal. Donc, c'était normal de se déplacer en permanence. Et puis, c'est vrai qu'en avançant dans le voyage, on se rend compte qu'on n'a plus envie finalement de parcourir des pays, des territoires en permanence. On a plus envie d'être posé à un endroit et d'approfondir la vie dans un lieu donné.
Et quand vous êtes parti, vous vous êtes dit, on va revenir, on va reprendre nos emplois d'avant, ou c'était vraiment une transition vers quelque chose d'autre? Vous aviez déjà des plans en tête?
Non, on n'avait pas de plan en tête, et on avait l'envie que ce soit une transition vers autre chose, hein. On avait un peu d'espoir. Mais on se gardait, on essayait de garder la sécurité, c'est-à-dire que moi j'avais réussi à avoir un congé sans solde dans la boîte de prestations pour laquelle je travaillais, et Marie avait demandé un congé sans solde et ne l'avait pas obtenu. Elle avait annoncé qu'elle allait démissionner, mais finalement il y a eu un plan de départ volontaire dont elle a pu bénéficier.
Vous êtes resté combien de temps au Népal? Ensuite tu disais un mois et demi, et puis vous êtes rentré directement ensuite en France. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Et au retour en France, il faut atterrir, hein. c'est assez spécial. La transition, cette année de voyage qui s'est terminée en plus par un mois dans un village perdu dans l'Himalaya, et puis faire un vol Katmandou, je sais plus où, dans les Émirats arabes unis, là, le changement, et arriver à Roissy, c'est un peu un choc. Donc, il y a eu une. On est resté tranquillement chez mes parents qui habitent en banlieue parisienne quelques semaines. On a atterri doucement. En fait, financièrement, on avait peu dépensé. Hein. Notre année, elle nous avait coûté 10 000 euros de mémoire. Comme on avait mis un peu de sous de côté avant de partir, hein, en travaillant, et ben, on avait encore des sous de côté. Donc on s'est dit, ben, on prend encore une année pour voyager en France et découvrir un peu les alternatives possibles en France. Et on va faire une exposition de photos sur notre voyage. Ce sera un peu un prétexte à voyager en France, montrer notre exposition. Et ensuite, il y avait un peu l'idée de faire du woofing aussi, là, ce bénévolat sur des fermes. Donc, quand on est rentré, c'était le montage un peu de ce projet dans les premiers mois du retour. L'exposition s'est déclinée en aussi une mini-conférence, un mini-film, diaporama sonore. On avait voyagé avec un micro aussi. On n'avait pas de caméra, mais on avait un appareil photo et micro. Donc, on faisait des sortes d'interviews des gens qu'on rencontrait. Tout un tas de musique, de son. Donc voilà, c'était au retour, on a embrayé sur ce projet de raconter notre voyage.
Si je fais un petit rétropédalage par rapport au moment de vos études, est-ce que bah, tout ce qui est transition écologique, agriculture, c'est des choses qui vous parlaient à tous les deux, vers lesquelles vous vouliez déjà vous diriger, ou c'est venu après, pendant le voyage?
C'est venu après, c'est même venu après le voyage, je dirais presque. Tout ce qui est agriculture, transition écologique, on était finalement pas dans ce milieu-là. C'était encore pas, comment dire, aussi développé enfin, chez les gens, dans l'imaginaire collectif. Donc c'était. Je me souviens plus trop, mais c'est sûr, pendant nos études, pas du tout, très très peu. Et puis après, dans nos premières années, où on était donc en poste d'ingénieur dans l'industrie, pas tellement non plus. Ça a dû venir un peu dans notre voyage. J'ai un peu oublié à quel moment c'est venu l'idée de faire du woofing ou des choses comme ça. Donc on a vécu au Népal dans un village où ils étaient en autarcie complète. Donc ça nous a un peu parlé de se dire voilà, bon, ils ont rien, ils n'ont même pas l'électricité, mais ils bossent beaucoup, mais ils sont dans les montagnes et ils survivent, hein, c'est un peu de la survie, mais ils sont pas. Ils y arrivent comme ça, donc ça nous a un peu fait tilt peut-être de voir ça.
Et ça, c'était un mode de vie qui vous plaisait, que vous vouliez reproduire en France ou ailleurs, ou juste c'est un déclic un peu qui s'est passé à ce moment-là en voyant ce type de vie possible?
Oui, du coup, ça nous a surtout fait réaliser en fait, qu'on peut s'en sortir un peu n'importe comment et qu'on n'a pas besoin de tout comment dire, toute notre vie parisienne qu'on avait, de ce besoin de travail. Finalement, enfin, si eux s'en sortent sans rien dans un petit village au Népal, pas de raison qu'on s'en sorte pas nous aussi ailleurs. Pourquoi pas qu'on reproduise la même chose quelque part en France. Et donc cette situation en fait professionnelle qui nous plaisait pas en région parisienne, qui nous gênait sur différents aspects, et ben on n'avait pas de raison de la garder parce que pire, on faisait comme nos amis népalais, ou, voilà, ou d'une autre manière, mais on avait d'autres possibilités de vie, de survie, plus en adéquation avec nos envies. Donc, c'est un peu ça le voyage. Le voyage, ça a fait réaliser l'étendue des possibles et qu'on était tout à fait capable de vivre autrement, d'autres choses que nos vies d'avant.
Si je reviens justement sur cette vie d'avant, qu'est-ce qui ne te plaisait pas ou vous plaisait pas dans la vie parisienne que vous meniez ?
Ben, ça n'avait pas beaucoup de sens. On utilisait nos capacités cérébrales, humaines, notre temps pour une entreprise dont le projet final, moi c'était pour Renault, ne nous parlait pas du tout, n'était pas du tout en adéquation avec nos valeurs. Voilà, donc ça c'était. Même si mon travail avait des côtés ludiques, hein, la mise au point de systèmes de clim chauffage dans les voitures, c'était intéressant d'un point de vue technique, technologique, mais le projet dans lequel s'inscrivait n'avait aucun sens à mes yeux, donc du coup ça perdait tout son sens de consacrer autant d'énergie, de temps, toute sa vie quoi, à un projet comme celui-là. Et puis après, la vie citadine, on a aimé ça, on aime ça de temps en temps, mais on sentait que ça nous fatiguait un peu à force, qu'on s'enlaçait de cette vie citadine à 100 à l'heure. Et donc, on s'en est rendu compte après, mais voilà, il fallait qu'on passe à autre chose. Même si on aimait ça, on a aimé ça, cette vie parisienne de sorties culturelles et autres.
Et ça, tu t'en es rendu compte aussi après, lors du voyage en France. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que vous avez fait en plus du reportage et de parler de votre voyage? Il y a eu des rencontres en particulier, des régions qui vous ont marqué?
Oui, en fait, je pense que aussi ce qui a fait un peu ce qui a orienté notre changement, c'est qu'on a découvert l'Ardèche en quelque sorte, et grâce à des Français qu'on avait rencontrés en voyage. C'est drôle, hein, de deux amis différents rencontrés à des endroits différents en Inde, qui habitaient en Ardèche, assez proches l'un de l'autre au final. Et donc, voilà, c'était au retour en France, c'était naturel d'aller les voir. Et donc, c'est là où Marie, surtout, a découvert sa passion pour les plantes, parce que ses copains vivaient donc dans des coins paumés en Ardèche, s'y connaissaient beaucoup en botanique, et ont en quelque sorte initié Marie à ça, et elle s'est passionnée pour les plantes en général. Voilà, et ça nous a aussi montré que voilà, eux, ils vivaient en Ardèche dans des coins reculés d'une manière ou d'une autre, et que c'était pas mal. L'Ardèche, des fois, ça fait un peu penser au Népal. En moins haut, moins grand, mais il y a des ressemblances un petit peu.
Est-ce que tu veux, du coup, nous parler un petit peu de ce que vous faites aujourd'hui, de votre ferme, de comment ça se passe?
Oui, dans le parcours, je vais peut-être finir le parcours un peu avant d'arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc après cette année de voyage, d'expo, on avait hâte de commencer de faire du woofing. On en a fait un peu, et c'est là où pour moi il y a un peu un miracle, mais un gros coup de chance qui me tombe dessus. C'est donc je lisais le journal L'Âge de Fer, F-A-I-R-E, à la recherche d'écolieux, puisqu'on était un peu dans cette idée de trouver des lieux collectifs, peut-être, ou s'installer, ou faire du bénévolat, enfin, continuer cette visite de France. Et donc, dans L'Âge de Fer, il y avait des petites annonces et il y avait une offre d'emploi pour... donc aujourd'hui, ça s'appelle l'Atelier Paysan. À l'époque, ça s'appelait, c'était l'Adabio en Isère. Et l'emploi en question, c'était maraîchage biologique, autoconstruction et dessin technique. Donc c'est des choses qui me parlaient beaucoup parce que donc je commençais à m'intéresser à l'agriculture, à l'autonomie alimentaire et l'agriculture. Je ne sais plus où j'en étais de mon militantisme pour l'agriculture biologique, mais donc je commençais à être sensible à ce, où je l'étais déjà bien, donc, à la fibre écologique de l'agriculture. Et quand même, ma formation d'ingénieur en mécanique automatique, m'intéressait dans le fond, et donc j'aimais bien tout ce qui était un peu autoconstruction, système bricolé pour faciliter un peu la vie sur des fermes, sur des maisons. Donc l'annonce, les quelques mots m'ont beaucoup parlé et je cherchais pas de boulot, en fait, j'étais encore en voyage en quelque sorte, mais là je me suis dit quand même je vais répondre à cette offre d'emploi, on sait jamais. Et donc j'étais au fin fond de la Bretagne et l'offre d'emploi c'était pour Grenoble en Isère, et j'ai essayé de remettre un jour un CV et puis rédiger une petite lettre de motivation, et puis bah, j'étais pris en entretien et j'étais embauché pour ça. Donc là moi je suis resté 6 ans et demi salarié de ce projet, l'Atelier Paysan. Ce qui m'a permis de me former, en fait, on va dire à l'agriculture bio, au maraîchage, à plein de choses. Moi, j'étais formateur en soudure. Je formais des paysans qu'ils sachent souder et fabriquer leurs outils eux-mêmes. Et je faisais des plans d'outils autoconstruits recensés sur les fermes. Donc ça, c'était pour moi. Et pour Marie, pendant ce temps-là, il y a eu un peu, donc il y a eu des expériences de woofing, il y a eu cette envie de... C'est concrétisé un peu cette envie de monter un projet agricole. Parce que quand on était revenu, on avait plein de voyages, on avait plein d'idées, on pensait faire du commerce de pierres précieuses, acheter en Inde, guide de voyage, enfin on avait plein d'idées. On ne savait pas trop vers où on allait. Et puis finalement, le projet agricole a pris de la consistance pendant notre année de voyage en France, en quelque sorte. Mais un projet agricole, ça met du temps à mûrir, à se construire, donc il faut laisser ce temps-là. Et donc, pendant que j'ai trouvé ce boulot à l'Atelier Paysan, Marie, elle, a fait plus de stages en agricole et finalement s'est inscrite à une formation, un BPREA, dans la Drôme, à Nyons, en plantes médicinales. C'est un diplôme agricole. Suite à sa formation, le projet, notre projet, mûrissait de trouver un lieu où s'installer et où lancer des cultures et lancer un projet agricole. Après, il y a la recherche de lieux, de fermes, de fonciers, qui est quelque chose de compliqué en France. Enfin, il y a des pays, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous, mais c'est quand même pas simple. Et donc c'est là où on a eu l'hésitation entre chercher en région Rhône-Alpes et puis venir en Bretagne, d'où est originaire Marie, où est toute sa famille. Et finalement, on est revenu s'installer en Bretagne, là on est dans le sud Finistère. Donc on a passé d'abord 2-3 ans sur une ferme en location, là on avait trouvé des terres à louer et avec une maison. Puis finalement, au bout de quelques années, c'était quand même compliqué pour mener à bien notre projet sans être chez nous, disons, avec les propriétaires qu'on avait. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a rapidement trouvé une ferme à acheter où on est depuis 3 ans et demi. Et donc, le projet, on va dire, principal, c'est la production de plantes médicinales et la transformation en produits cosmétiques, produits de soins, donc des huiles, des paumes. Et on fait un peu de distillation aussi, donc pour produire nos propres huiles essentielles et hydrolats. Et puis, bon, sur la ferme, on a un verger, des moutons, des ânes, des poules. Voilà, donc ça, c'est Marie qui a monté tout le projet, en quelque sorte. Moi, j'étais toujours salarié de l'atelier paysan à temps partiel pour pouvoir consacrer du temps sur la ferme, parce que j'avais envie de participer à la ferme. Mais c'est vrai que l'atelier paysan, c'était un projet qu'on a mené, où j'étais le premier salarié, et aujourd'hui... Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à l'atelier paysan et ça a commencé en Isère. Et quand je suis venu en Bretagne, j'ai monté une antenne en Bretagne. Donc c'était un projet qui me tenait à cœur et que je ne pouvais pas lâcher comme ça. Donc ça a pris du temps à ce que je puisse finalement le quitter complètement sans que. Et puis passer la main à quelqu'un pour que le projet continue. Donc, mais ça a fini par se faire pour que je puisse me consacrer à plein temps à la ferme. Donc ça, c'est depuis 2 ans à peu près, donc je suis plus salarié de l'atelier paysan et je peux me consacrer à plein temps à la ferme. Donc il y a eu la question de savoir si on diversifiait l'activité de la ferme avec mon arrivée à plein temps sur le projet agricole. Et dans un premier temps, on a décidé de se concentrer sur le projet Belle Baume Chanty. Le projet de plantes médicinales et transfocosmétiques et de se mettre à deux sur ce projet parce qu'il y a largement du travail pour deux et donc il y a matière aussi que ça fonctionne économiquement et que ça rémunère deux personnes, donc autant se concentrer sur un seul projet. Après, les difficultés de faut travailler ensemble, hein, ça c'est d'autres histoires, mais c'est notre aventure. Donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui sur notre ferme. Mais c'est ce qui est passionnant avec une ferme, c'est que et puis donc c'est d'avoir sa propre entreprise en quelque sorte où on est aujourd'hui, on a un fonctionnement finalement encore en train de se mettre en place. Hein, on est même au bout de 3-4 ans, on est encore en train de créer son projet en quelque sorte, mais on est libre en fait de le faire évoluer dans telle ou telle direction selon ses moyens, mais à l'avenir. Donc, on verra bien dans les années qui viennent la tournure que ça prendra.
Ben justement, j'en profite pour te demander un petit peu si vous avez des projets en particulier là à l'avenir. Comment est-ce que toi tu le perçois? C'est quoi un petit peu ta vision sur ce projet?
Il y a le projet, on va dire, Baume Chanty de produits de soins cosmétiques qui doit s'affiner, qui doit, voilà, en termes de gamme, de qualité, de produits, et faciliter certaines tâches. Là, il y a toute une marge de progrès qu'on va faire évoluer, qu'on va tâcher d'amener à notre projet. Et après, en termes de la question de diversifier, se reposera forcément. Ce qu'on aimerait bien, moi, ce qui m'attirerait, c'est d'aller vers cette autonomie, toujours plus d'autonomie. Donc, voir si on peut faire le grain, le foin pour nourrir nos quelques moutons, si on peut faire un peu de légumes, parce qu'on fait quasiment pas de légumes, on n'a pas de temps. Voilà. Viser une autonomie alimentaire, ça nous parle beaucoup. Et après, ben, il y a toujours, quand on est sur une ferme, après, on réalise qu'il faut garder un équilibre, en fait, ben, d'une part économique, hein, parce qu'il faut quand même gagner un peu de sous pour toutes les dépenses qu'on peut avoir à côté. Il faut avoir du temps aussi, parce que tout prend énormément de temps. Donc, c'est comment on lance une nouvelle activité, on fait du légume, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on va gagner de l'argent avec, ou est-ce qu'on va juste faire des légumes pour soi? Est-ce que, voilà, donc c'est un peu des stratégies, des réflexions qu'il faut mener sur comment, en fait, comment on tient une ferme, comment on est le métier de paysan en quelque sorte, où le paysan, eh ben, il fait avec ses ressources, il produit des denrées alimentaires, il fournit les denrées alimentaires de ses animaux. Et trouver un équilibre dans tout ça, et effectivement, avec un idéal d'autonomie complète, mais c'est aussi. On a aussi une réflexion sur cette idée, des fois un peu utopique, qu'on a de vouloir tout faire sur sa ferme, qui est un peu stupide, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Si on a un voisin qui est paysan boulanger, qui fait des céréales et du pain et qui fait ça très bien, ben, il n'y a aucun intérêt à en faire chez soi, autant en faire autre chose et puis lui acheter son pain et puis lui vendre ses baumes. Donc il y avoir une autonomie qui se réfléchit au niveau du territoire. Et après, l'autre évolution qui nous tiendra à cœur, c'est de réussir à décarboner au maximum toute notre activité. Donc, on utilise des tracteurs. Hein, bon, ils ne tournent pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de culture, mais donc on met quand même du gasoil dedans. On fait un peu de traction animale pour le désherbage, mais voilà, avec les ânes. Mais comment on passe à plus de traction animale et puis comment on utilise un peu moins la voiture pour tout ce qui est livraison, choses comme ça. Donc, voilà, il y a des réflexions, des pistes d'évolution qui sont nombreuses pour viser l'autonomie et la résilience. Sachant que notre ferme, on est déjà pas mal, parce qu'on l'a achetée, elle était déjà comme ça. Elle est en autonomie énergétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas relié du tout au réseau EDF. On a une éolienne, des panneaux solaires pour l'électricité, plus un groupe électrogène quand même en secours quand il y a besoin. Bon, on est un peu limité en électricité, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Et on a aussi une autonomie au niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'est pas relié au réseau d'eau, on a un forage qui alimente des cuves et puis une pompe ensuite. Donc, on est déjà autonome de ce côté-là.
Et est-ce que tu t'imaginais, toi, en école, d'ingénieur, avec Marie, arriver à reprendre une ferme? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire comme message si tu pouvais te parler à cette époque-là?
Non, bah, à cette époque, je ne me disais pas du tout ça. À cette époque, au moment des études, on essaie d'imaginer son métier plus tard. Alors, déjà, on a du mal à le concevoir, hein, le métier d'ingénieur. Et surtout, le peu qu'on en conçoit, à l'époque, ça ne me faisait pas du tout rêver. Donc, ça m'inquiétait un peu de dire, mais ça va être quoi mon métier après? Donc, voilà, je me demandais un peu si. Enfin, c'est un peu l'inconnu, mais bon, j'avançais quand même là-dedans. Non, moi, ce que j'aurais envie de me dire, c'est que de toute façon, faut pas avoir peur. C'est la peur qui bloque le changement. Donc, faut pas avoir peur d'explorer. Puis c'est vrai c'est un peu triste, des fois, nos formations qui nous focalise sur un sujet dans un domaine et finalement un stage où on pourrait explorer plein de choses, et ben on nous met tout de suite dans un domaine très précis, très particulier, qu'on pousse à fond. Ça a des intérêts, mais ça empêche de voir d'autres choses et de découvrir qu'il y aurait peut-être des choses qui nous intéresseraient plus que ce qu'on fait. Bon, après mes études, finalement, on se rend compte que j'ai appris, il y a quand même pas mal de choses qui servent encore en termes de science, de connaissances scientifiques. Quand on est sur une ferme et agriculteur, bon, ben, enfin, les sciences servent toujours, hein, les mathématiques servent toujours, donc ce n'est pas non plus du temps complètement perdu, mais c'est vrai que finalement, avec nos métiers d'ingénieurs, on peut faire plein d'autres choses, on peut se reconvertir assez facilement, et c'est drôle, mais je pense que c'est parce que moi, donc, j'ai changé de voie, j'ai quitté mon métier d'ingénieur, mais je recroise des anciens copains d'école qui font autre chose. Ils sont assez nombreux, finalement. Enfin, nombreux. Je ne suis pas du tout la majorité, mais il y en a quand même un certain nombre qui se sont mis brasseurs, comédiens, toute autre chose, et qu'on réussit à faire autre chose. Je ne suis pas sûr qu'ils regrettent pour autant leur formation initiale.
Et toi, au niveau de ton entourage, de ta famille, quand vous avez décidé déjà d'arrêter vos postes au tout début, puis ensuite, après l'atelier paysan, quand tu t'es mis à temps plein sur la ferme, quel a été un peu leur retour, même enfin, les réactions de vos amis? Comment est-ce qu'ils ont réagi?
Ah ouais, il y a toujours de l'inquiétude. Donc nous, on n'avait plus peur de ce qui allait nous arriver, mais nos familles, nos amis, enfin mes parents, mes amis avaient peur pour nous, et comment on va vivre, comment on va gagner des sous, hein, c'est ça qui les inquiétait. Mes parents, ils ont eu au moment où on est rentré de voyage, et que donc moi j'ai démissionné en rentrant de voyage, en fait j'avais eu mon congé sans solde, et en rentrant de voyage, j'ai démissionné. Donc ça, là, ils ont eu peur, surtout que nos projets étaient encore très, très flous, très vagues, mais juste, nous, on n'avait pas peur, on savait qu'il fallait qu'on y aille. Donc, et que typiquement, justement, mon travail à l'atelier paysan, j'ai pu l'avoir parce que j'étais libre, que j'étais juste disponible. Donc, les portes se sont ouvertes comme ça. Et après, les autres amis... pareil, il y avait toujours cette interrogation un peu sur comment on va en vivre. Et même sur notre projet agricole, on nous pose souvent la question, hein, parce que les plantes médicinales, c'est un peu en vogue, tout le monde va en faire. Et la question est, mais vous arrivez à en vivre ou pas? C'est un peu ça la question. Et donc... un projet agricole, c'est pas simple, hein, c'est pas juste pour ceux qui aiment les petites fleurs, cueillir des petites fleurs et faire un peu des transformations dans sa cuisine. C'est du projet qui demande beaucoup de temps, qui demande un peu de taille pour être viable, mais si on croche dedans, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Faut s'intéresser à tout. Voilà. La production, la commercialisation de ces produits. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, la réaction de l'entourage, c'est un peu sur le modèle économique de notre foyer. comment est-ce qu'on va s'en sortir? En général, on arrive à les rassurer. Ils ont arrêté de s'inquiéter pour nous.
Vincent? On arrive à la fin de cet entretien et j'ai encore une question sur les recommandations de lecture ou de films ou de podcasts que tu aurais pour les gens qui se posent des questions et qui ont envie de changer de voie ou qui t'ont, toi, inspiré, tout simplement.
Oh là, je vais sécher cette question, je crois, parce que je n'aurais rien... Ouais, je lis beaucoup, mais rarement là-dessus. Moi, j'aurais envie d'envoyer vers l'atelier paysan, le site de l'atelier paysan. Il y a, en termes de formation politique, il y a beaucoup de choses. Il y a des vidéos, il y a des conférences, des écrits sur la question de la technique et la technologie paysanne, sur la réappropriation de savoir paysan, savoir et savoir-faire. Donc ça, c'est une question que les gens ont pas forcément en tête, la question politique de l'outil, de la machine et de sa place dans nos sociétés, hein, que ce soit en agricole ou dans d'autres. Donc ça, c'est des choses intéressantes où j'ai été sensibilisé à ça par mon boulot à l'atelier paysan. Et sinon, sur le voyage et reconversion, non, là, après, je ne sais pas trop quoi conseiller.
Ok, bah c'est pas grave. Bah Vincent, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et bah je vous souhaite bonne chance à tous les deux, à toi et à Marie, avec Baume Chantilly. Et puis je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!